Vous écoutez
RMC.
Ouais, vous êtes dur avec Nico Jamin quand même d'avoir sorti ça sur le dernier truc. On l'embrasse, il revient très vite.
Ah bien.
Ouais. C'est Génération After spécial drôle de dame.
Avec c'est pas nous.
Avec Fred Hermel, avec Paulo Breitner, avec Johan Crochet, avec Julien Laurence en direct jusqu'à 22h. La saison est repartie. La saison des drôles de dames est relancée. Également tous les lundis, la seule émission de foot européen à la radio. Dans quelques minutes, on parle d'Allemagne, le championnat le plus relevé, la course au titre. Également, l'AC Milan de Paulo Fonseca qui a connu un démarrage compliqué. Et puis l'Atlético, notamment. L'Atlético sera-t-il le rival numéro 1 du Real pour le titre? Il y a en tout cas un mercato XXL plus l'après Klopp qui a bien débuté. On est toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After. Vous êtes de plus en plus nombreux ce soir en ce 19 août. Merci d'être là, ça fait plaisir. Et puis le 32-16, bien évidemment, si vous voulez échanger face aux drôles de dames, 21h45, les drôles de dames seront tout à vous. Juste avant l'Allemagne, la Ligue 2, c'est la fin de la première journée. Est-ce qu'on est reparti pour ce match entre Metz et Bastia, Patrick Muller?
Quasiment, mon cher Thibaut, après un bon quart d'heure d'interruption, le match a été interrompu après 2 minutes et 40 secondes pour cause de jet de projectiles de la part des supporters installés dans les deux tribunes du FC Metz, ici au Stade Saint-Symphorien. 0-0 entre Metz et Bastia, ça va repartir d'ici quelques secondes.
Marty Glorian, Maxime Tilliette.
Eh bien la 18e, toujours 0-0 et sans surprise, domination lorientaise, même si Martigues a quelques situations à négocier en contre-attaque. Mais on a vu Thierry Loret, l'entraîneur des Martégos, s'agacer puisqu'il y a eu des coups de sifflet venus deux trois fois des tribunes sur notamment une contre-attaque, et ça a perturbé un peu les joueurs. C'était pas la première fois depuis le début de la rencontre, le speaker a passé une petite annonce, mais bon, les coups de sifflet sont toujours là, donc on va voir si ça va perturber un petit peu le jeu. J'ai l'impression que les joueurs s'y habituent. En tout cas 0-0, on approche la 20e entre Martigues et Lorient.
A tout à l'heure, dans quelques minutes, l'Italie et l'AC Milan, mais d'abord l'Allemagne, Polo. Et c'est donc parti pour le championnat le plus relevé de l'histoire. Évidemment, on ne parle pas de Bundesliga, mais la D2 allemande.
C'est complètement fou ce qui se passe. Même les commentateurs, les supporters, les journalistes qui suivent ce championnat comprennent pas ce qui se passe en fait. Et moi, je voulais l'avis de mes collègues parce que, si tu veux, Fred vient de nous donner un exemple de ce qui se passe avec la globalisation. On a souvent parlé en plus ou en moins de la Première Ligue ou de différentes choses, comment ça va évoluer, le capital, tout ce qu'on veut, etc. Et puis là, tu as un championnat qui ne paye pas de mine comme ça, même s'il est très important en Allemagne, qui est relativement peu diffusé à l'international. Donc on sait que le football allemand est très centré sur lui-même, parce qu'il y a en gros, il y a la Pologne, il y a l'Autriche, il y a la Suisse, il y a des pays comme ça qui regardent, mais c'est pas tellement diffusé. Et tu as le plus grand championnat, en tout cas c'est ce que pensent les journalistes allemands spécialistes de la Zweite Liga, le plus beau qu'on a vu depuis la création de la deuxième division allemande, avec sur les deux premières journées près de 30 000 spectateurs de moyenne dans les stades, 29 612,
c'est énorme.
Mes calculs, c'est énorme. Vous avez évidemment Hambourg, Schalke, Darmstadt-Cologne qui sont descendus, Nuremberg, Hanovre, donc des clubs, le Hertha, des clubs qui ont été champions de Bundesliga aussi qui sont là, Düsseldorf, Kaiserslautern, Karlsruhe, ça parlera pour les vieux comme moi, Greuther Fürth, Paderborn, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce championnat-là n'est pas valorisé, on va dire, globalisé, comme on nous parle à longueur de temps, qu'il faut faire une Super League, qu'il faut faire évoluer la Ligue des Champions, qu'il faut faire ceci, le marketing, le blabla, tout ce que tu veux. Et je trouve que c'est assez extraordinaire parce qu'il y a un côté réactionnaire, entre guillemets, quand je dis extraordinaire, c'est ce qui n'est pas ordinaire, évidemment, et pas que je suis pour ou contre de ça, c'est que c'est assez réactionnaire. Il y a un côté conservateur, comme quoi le public allemand, finalement, se retrouve dans ces clubs et n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe dans le football professionnel. Et je peux vous assurer que j'ai regardé tous les matchs des deux week-ends derniers, et c'était génialissime par l'ambiance qu'il y a, par le fait que les gens sont heureux, etc., et que ça pousse dans tous les sens, et qu'on ne sait même pas qui c'est qui va monter en fin de saison. Moi, je voudrais bien avoir l'avis un peu entre guillemets politique de mes collègues là-dessus, parce que qu'attend la France par exemple pour diffuser la deuxième division? Je sais que Bein avait essayé de le faire l'année dernière, mais ils font de la pub, mais j'ai vu deux matchs et puis c'était fini, etc. Donc moi je voudrais bien qu'on m'explique un petit peu ce phénomène. Est-ce que c'est un phénomène conservateur, réactionnaire un petit peu par rapport à l'évolution globalisée du football, ou si c'est autre chose? En tout cas, c'est une superbe surprise.
Je fais une parenthèse avant de laisser la parole à tes collègues drôles de dames. La Ligue 2 cette année en France, on en a parlé plus que jamais, on en parle encore, on est en direct à Metz là avec Patrick Muller, mais bon, pas pour les bonnes raisons, évidemment, puisque cette année, les horaires ont changé. Le multiplex qui avait lieu le samedi soir avant a lieu désormais le vendredi soir à 20h, d'où la colère des supporters de tous ces clubs de Ligue 2 qui jugent justement que leur championnat, leur club n'est pas respecté.
Alors, j'ai été très critique sur la Liga, moi, ces dernières années, mais j'ai jamais été critique sur la deuxième division espagnole, qu'on appelle la Liga Hypermotion, c'est le sponsor, franchement, parce que c'est vraiment bien. Il n'y a pas un niveau énorme entre la deuxième partie de la Liga et la première partie de la Liga de deuxième division. Et quand tu regardes cette saison, vous avez Santander, vous avez Almeria, vous avez Malaga, vous avez Tenerife, vous avez Gijón, Sporting de Gijón, vous avez Grenade, vous avez le Deportivo La Corogne, vous avez Cordoue, vous avez Cadix. Non mais vous avez quand même plein de super clubs, quoi. Enfin, des clubs très connus et plein de clubs qui ont joué en première division. Donc c'est un peu le même phénomène qu'en Allemagne, c'est-à-dire qu'on a de grands noms.
Comme dit Polo, peut mise en valeur aussi chez toi.
Ah, elle est plutôt pas mal en Espagne, on en parle quand même pas mal. Ouais. Hein. Ouais, franchement, aussi parce que... Alors, je sais pas... Je me fais une réflexion comme ça, je lance comme ça. Est-ce que tu penses, Polo, que la décentralisation qu'il y a dans nos deux pays fait qu'il y a aussi une mise en valeur, notamment dans les médias locaux, de clubs comme ça, de deuxième division?
Ouais,
ça,
non, mais c'est sûr que le régionalisme, entre guillemets, est très important, le fédéralisme, comme on dit pour les Allemands, etc.
Mais quand même,
bien sûr, mais ça fait partie,
les clubs sont très importants. La deuxième division, parce que localement, ça compte, quoi.
Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, si tu veux, c'est que, alors c'est vu d'un produit pour le marché allemand ou pour le marché alémanique, c'est pas, ils sont pas là pour être en prime time de la première ligue, en avant-première ou ce que tu veux. Mais c'est ce qui m'intéresse, c'est comment ça se fait que ça explose, alors que ce sont des clubs qui évidemment financièrement ne roulent pas tous sur l'or parce que les droits télé ne sont pas les mêmes, il y a pas de droits télé internationaux, et les transferts évidemment c'est pas ceux de l'élite, etc. Et donc je me regarde comment ça se fait que le public répond présent. Alors le niveau des matchs en Allemagne, je ne regarde pas à l'étranger, mais le niveau des matchs en Allemagne et en deuxième division est très très élevé. Mais bon, si tu commences à aller en bas de classement de la deuxième division, ça devient aussi un peu compliqué parfois à voir. Mais tu te rends compte que ça pousse. Alors évidemment, c'est des noms. Quand tu as Karlsruhe, tu sais ce que ça veut dire. Kaiserslautern, tu le sais, Fred, on est les vieux cons de l'after. Ça, c'est un nom qui nous parle. Ah oui, il y a des choses comme ça. Mais.
Le dimanche soir, les résultats, tu sais, les panneaux à la télé sur la deuxième.
Mais que je vois que année après année ça augmente. Alors évidemment il y a des mecs spécialisés dans le marketing qui bossent bien, les financiers, blabla, tout ce qu'on veut, mais ça n'a rien à voir avec la globalisation ou le produit qu'on nous donne pour les premières divisions européennes. Et je trouve ça très intéressant de voir comment se fait-il. Alors on m'a parlé, j'ai entendu encore un mec du marketing là français qui m'a parlé de Culture Stade. Moi je sais pas, jamais en Allemagne j'ai jamais entendu parler de Culture Stade, mais lui apparemment il s'y connaît. Donc c'est le genre de truc comme ça. Je voudrais savoir d'où ça vient. Pourquoi est-ce que ça pousse comme ça? Est-ce que c'est une réaction justement à l'évolution du football, voire plus? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est un truc qui me passionne. Et j'ai regardé tous les matchs des deux premières journées. Ben, j'attends qu'une seule chose, c'est que ça continue, quoi. C'est un truc assez génial à ce niveau-là.
Ouais, moi, quand je vois, par exemple, quand tu vois le derby d'Asturie, qui est l'un des grands derbys d'Espagne et qui joue en deuxième division, entre le Sporting de Gijón et Oviedo, par exemple, voilà, ça c'est. Il y a 50 000 personnes, 40 000 personnes dans le stade. On en parle pendant des semaines. Enfin, tu vois, et c'est traité quand même dans la presse espagnole.
Il y a une deuxième division dont on parle beaucoup, notamment en France. Bah, c'est la tienne, Julien, là, des deux anglaises, mais notamment pour ses moyens, pour les joueurs parfois qui viennent de. Voilà, en France, les joueurs qu'on recrute d'Angleterre souvent viennent de Championship.
Ouais, c'est vrai aussi. On a vu par exemple Rennes qui a recruté Jordan James, là c'est ça, qui était descendu avec Birmingham, l'international gallois. Mais nous, elle est très mise en avant, forcément, parce que déjà, c'est du très haut niveau, entre guillemets. Alors, c'est pas toujours très spectaculaire, c'est pas toujours du très beau football, mais c'est vrai que ça fait beaucoup recette. Les stades sont pleins, c'est un vrai spectacle, comme ils l'ont fait un petit peu pour la première ligue, un degré moins. Mais nous, la troisième division, la quatrième division, la cinquième division, c'est la télévision aussi ici. Donc, c'est une autre mentalité, c'est une autre structure, la pyramide, comme on l'appelle en Angleterre, qui fait descendre l'argent de la première ligue vers justement ces autres divisions-là, la deuxième, troisième, exactement. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et c'est pour ça aussi que ces clubs-là sont beaucoup plus riches que leur équivalence en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France, etc., etc. Ça vient de là aussi, parce que la première ligue gagne tellement d'argent qu'ils peuvent se permettre de faire de faire ruisseler, comme tu dis, en bas de la pyramide. Donc voilà, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'ils vendent ça très très bien. Ouais.
En France, il y a une gouttière, ça ruisselle pas.
Après, c'est la question aussi de clubs. Quand tu vois des clubs comme Malaga, comme Oviedo, qui sont tombés très bas, comme le Deportivo, qui sont tombés très bas à cause de problèmes financiers parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Comme ils ont toujours conservé des centres de formation. Et la formation en Espagne, elle est bonne. Aussi, ça s'appuie sur beaucoup de joueurs espagnols formés au club. Donc, ça aussi, ça permet d'avoir je pense, une compétitivité et un style qui est plutôt pas mal en Espagne.
Allez, dans un instant, on retourne en Italie pour la première de Fonseca avec l'AC Milan. Première compliquée, mais ça aurait pu être pire. On parlera également du Mercato XXL de l'Atlético de Madrid. Peut-être le rival numéro 1 du Real pour le titre. La minute de Julien Laurence également. C'est dans un instant sur RMC, Wayon.
Et l'ouverture du score de la Juve par Bangula, jeune joueur de la Next Gen, la U23 de la Juve, qui a fait sa formation à la Juve et qui jouait chez l'U19 il n'y a pas si longtemps que ça.
L'après Allegri des Marvilles.
Et première surprise hein, de le voir titulaire. Alors on sait que la Juve a écarté pas mal de joueurs, il y en a qui sont un peu sur le banc, qui ne sont pas encore au point, mais c'est surprise de voir titulaire et une belle action personnelle et une frappe au ras du poteau.
Le match qui vient de débuter, pour avoir le résultat, c'est à la radio hein, sur RMC. Pas de diffuseur en France de la Serie A. A tout de suite sur RMC.